Nous avons, depuis quelques semaines, regardé le peuple d'Israël. Nous l'avons trouvé devant l'eau jaillissant du rocher. Nous l'avons trouvé à Mara, avec de l'eau impure, que Dieu a purifiée. Nous l'avons trouvé la semaine dernière recevant cette manne du ciel, ce pain que Dieu donne. Ce matin, nous allons revenir à juste avant. À juste avant, et vous comprendrez pourquoi j'ai pris dans cet ordre. Le peuple d'Israël, dans le chapitre 15 de l'Exode, a exprimé la louange. Exode 15, à partir du verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent : Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu et je le célébrerai. Il est le Dieu de mon père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et de son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé de sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume au souffle de tes narines. Les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait : Je poursuivrai, j'atteindrai. Je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans les profondeurs des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges ? Tu as étendu ta main droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples apprennent et tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit le guerrier de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras, tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché au sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, et avec le tambourin en dansant, Marie répondit aux enfants d'Israël : Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ce cantique, écrit par Moïse, exprime ce que représente Dieu, ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait. On a chanté tout à l'heure « Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tous, je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité, je crois que tu as payé pour tous. » Que je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner. On a un nouveau cantique de Moïse. Mais oui, il y a deux parties, comme le cantique de Moïse, on va voir. La première partie, il y a une vérité générale. que beaucoup ne croient pas. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité. Beaucoup de gens pensent que Jésus a existé. Beaucoup de gens pensent qu'il est mort. Mais peu pensent qu'il est ressuscité ou croient. Et là, il y a le verset qui dit « Et je crois que ». Quelle est notre affirmation par rapport à Dieu ? Ce peuple d'Israël que nous avons vu devant l'eau, incrédule, devant l'eau amère, criant, prêt à lapider le conducteur. Ce peuple qui ne comprenait pas la manne. Ce miracle qui s'est reproduit pendant 40 ans. Ce peuple que Dieu a gardé, nous sommes, nous aussi, le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu garde, protège, nourrit, assiste, conduit, préserve. N'est-ce pas ? Et nous disons, nous chantons, je crois en toi, Seigneur. C'est tout ce que dit Moïse. Moïse exprime, rend compte, rend louange à celui qui l'a préservé. Et ce qui est intéressant, on va le voir tout à l'heure, c'est que le cantique, il est conjugué au début à la première personne. C'est l'expression de Moïse. Mais ensuite, il va entraîner tout le peuple. Et on va voir à la fin aussi, les femmes vont aussi chanter. La première grande confession de foi, c'est ça notre confession de foi. Profession de foi. Celle d'Israël a été exprimée dans ce cantique. C'est le premier texte qui déclare voilà en quoi nous croyons. On l'a appelé le cantique de Moïse. Le cantique de Moïse. Mais dans Deutéronome 32, on ne va pas le lire ce matin, dans Deutéronome 32, il y a un deuxième cantique. Moïse est à la fin de sa vie dans Deutéronome 32. Il a raté l'entrée du pays. Mais il exprime quand même à Dieu sa reconnaissance. Et puis dans le psaume 90, un troisième cantique. Un cantique où Moïse exprime aussi la beauté de la vie. Mais on va considérer ce matin le cantique. Alors moi je dirais un cantique de Moïse. Moïse exprime quelque chose que nous pouvons exprimer aussi, c'est la joie d'être sauvé. Le peuple avait été sous oppression pendant 400 ans. 400 ans. On trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 15, dans les versets 13 à 15, si vous voulez tourner avec moi, Genèse chapitre 15. Dans le verset 13 à 15, voilà ce que Dieu avait révélé à Abraham, qui n'était pas encore Abraham. Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, esclaves. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi qui iras, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici une fournaise fourmante. » Dieu avait annoncé déjà à son peuple par où il allait passer. Dieu l'avait dit à Abraham. Et là, on est à la fin de cette oppression. Dans Exode 12, regardez encore Exode 12, c'est pour vous donner un peu le contexte de tout ce qu'on lit. Exode 12, versets 40 et 41. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte, plus de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'oppression est arrivée à sa fin. Dieu a tenu parole au jour près. Dieu a fait alliance avec Abraham pour le bénir à travers de ses descendants, les délivrer de l'esclavage et les emmener au pays de Canaan. En voyant Moïse à Pharaon, Dieu force le tyran, Pharaon, à libérer les Israélites par 10 fléaux. Il ne le fait pas juste comme ça, mais par 10 fléaux qui poussent les Israélites à quitter leur cadre de vie, leur fournissant aussi, et nous le verrons tout à l'heure, des cadeaux pour sortir. Dieu a pourvu au voyage. Après que les Israélites soient partis, Pharaon et ses officiers, on le sait, ont changé d'avis. Ils n'étaient plus d'accord de laisser partir Israël. La délivrance des Israélites et la défaite des Égyptiens sont une occasion pour ce cantique. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre pays, et je suis sûr dans les vôtres, dans tous les pays, quand il y a une occasion, qu'est-ce qu'on fait ? On chante, on célèbre, on invente des chants pour célébrer. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible fait de même. La Bible nous donne l'occasion d'exprimer à Dieu notre amour, notre tendresse, notre reconnaissance, notre adoration par des chants. Et ici, on a ce texte qui exprime la délivrance. La disposition, c'est un triomphe. Il y a une description de la puissance, le défenseur d'Israël, et puis on parle de la délivrance d'Israël par le moyen de la mer Rouge. La victoire de Dieu est vue comme une garantie. Dieu nous donne les arts, les prémices de la victoire. Et à nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, Dieu ne nous a pas fait traverser la mer Rouge, mais il nous a donné les arts de la victoire. Où ça ? Où, à votre avis ? À Golgotha, mes amis. À Golgotha. Quand Jésus est mort et ressuscité. Pas juste quand il est mort, mais quand il est ressuscité. C'est les prémices, l'assurance, la sécurité que Dieu avait accepté le sacrifice de son Fils. Et alors les portes du ciel se sont ouvertes. Et nous avons pu avoir cette relation avec Dieu. Alors on va voir deux parties. Deux parties pour nous aider. L'idée ce matin que je développe, c'est, voilà, je voulais vous faire chanter ce matin, mais j'ai eu un peu de mal. Mais ici, le peuple exprime par le chant la réalisation, la victoire de Dieu. Et donc, on va voir dans les versets 1 à 12 la victoire de Dieu sur les Égyptiens. Ce que Dieu a fait. Et on verra dans les versets 13 à 21 ce que Dieu fera. Il y a deux parties. Moïse a écrit ce cantique. Au verset 1, il est dit « Je veux chanter pour l'Éternel, il a fait éclater sa gloire, il a culbuté dans la mer où il a couvert, dans les versions, le cheval et son cavalier. » Et ce qui est intéressant, au verset 21, on va trouver Marie. Chanter pour l'Éternel, faire éclater la gloire. Utiliser les mêmes paroles. Vous savez, quelque chose qui est intéressant, c'est que quand quelqu'un chante, à part s'il chante comme une casserole, en principe, il y en a d'autres qui chantent. Ça entraîne. Et quand des gens râlent, même s'ils râlent mal, mais il y en a peu qui savent râler mal, hein, et ben eux aussi, ils entraînent. Alors moi, je me demande, où est-ce qu'on entraîne mieux les gens ? En chantant ou en râlant? Je ne fais pas de sondage. Pendant que ce cantique était chanté par tout le monde comme l'expression de louange et de remerciement au Dieu d'Israël, Les versets expriment cette louange à la, je l'ai dit tout à l'heure, à la première personne. Regardez bien ce qu'il dit. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. C'est lui qui m'a sauvé. C'est intéressant, c'est qu'au travers d'un groupe, d'une grande population, Moïse affirme, là, son salut. C'est pas un salut universel. Son salut. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que nous, peuple de Dieu, nous pouvons nous réfugier derrière une vérité universelle que Dieu a sauvé, veut sauver tout homme, mais que nous pouvons exprimer notre salut personnel. C'est ce que commence à dire Moïse. Je. Les pronoms de la première personne, je, mon, c'est mon salut. D'une façon très typique, cette action est vue comme une évidence que Moïse a une relation avec son Dieu. Nous ne pouvons pas chanter n'importe quoi. Nous ne pouvons pas nous approprier n'importe quel mot. Si ? Si on exprime des choses qui ne sont pas vraies, alors quelle est la réalité de notre vie ? Dans ces versets 1 et 2, et la suite, l'Éternel, voilà ce que dit Moïse, c'est lui qui m'a sauvé, il est, regardez bien, mon Dieu, et je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon de son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis, les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond comme une pierre. Ce qui est intéressant, c'est que devant, on essaye maintenant de démontrer que les miracles trouvés dans la Bible, sont en fait l'effet d'éléments naturels. Donc ce n'est pas un miracle, si ce sont des éléments naturels. D'accord ? Donc le passage par la mer Rouge, c'est des vents qui ont soufflé de droite à gauche. En même temps, et qui ont permis que la mer s'ouvre. Qui ont permis que la mer ne redescende pas. Et puis, un des deux vents s'est arrêté. Et alors que les Égyptiens étaient au lieu, la mer les a couvertes. Donc, ce n'est pas miraculeux. Vous connaissez beaucoup de situations comme ça ? On ne voit pas Dieu dedans, mais il est là. Il est ce Dieu qui, en toutes circonstances, utilise aussi les événements, utilise aussi les mains des chirurgiens, utilise aussi les médicaments, utilise aussi les traitements, utilise aussi les gens riches, les gens pauvres, utilise aussi les gens que nous rencontrons, des fois les facteurs, pour être porteurs de bonnes nouvelles. Et on peut quand même appeler ça des miracles. On peut quand même appeler ça des miracles. Et là, il dit quoi ? Il dit, l'Éternel est un vaillant guerrier, les flots les ont couverts. Qui a créé les flots ? L'Éternel ? Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère. Au souffle de tes narines, les eaux sont amoncelées. C'est Dieu qui souffle. Les courants se sont dressés comme une muraille. Dieu est le créateur de toute la terre. Et ce Dieu est celui qui agit et qui utilise ces éléments pour sa gloire. Regardez les versets 9 et 10. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie. Et regardez bien verset 10, tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. La souveraineté de Dieu. Dieu souverain dans tous les événements de notre vie. Est-ce que vous croyez ? Il y a des moments où on se demande, hein, et on pose la question, Seigneur, est-ce que tu es vraiment là ? Est-ce que éventuellement ton GPS serait arrêté? Pas de signal, vous savez, il y a des. Hein, quand on passe au tunnel de la Défense, j'avais un vieux Tom-Tom qui ne lisait jamais, hein, dès que je rentrais sous le tunnel. Alors, sous le tunnel, il y a plein de sorties. Et il me disait à la sortie, faites demi-tour. Alors, je retournais sous le tunnel, qui ne me disait toujours pas où j'étais. Je sortais de l'autre côté et il me disait, faites demi-tour. Et j'avais l'impression que j'étais dans le désert. Hein. Droite, gauche, donc je prenais une sortie à l'aveuglette. Mais Dieu ne nous perd jamais. C'est ça qui est extraordinaire. Et là, on voit que l'ennemi avait de mauvaises intentions, mais la souveraineté de Dieu, verset 3, c'est un guerrier puissant. La plus puissante armée au monde est à notre service. La plus puissante armée au monde, celle qui est inviolable, inattaquable, celle de Dieu. Mais Dieu, vous savez, c'est pas ce... Je voudrais pas que par ces mots on dise « Ah, Dieu c'est un Dieu guerrier, vous savez, qui cherche à savoir qui tu es. » Non. Dieu, ce Dieu aimant, qui protège ses enfants, qui envoie des cohortes d'anges pour nous préserver. C'est lui qui enlève l'arrogance de ces hommes qui dit « On va y aller et on va les avoir. » En dépit de leur pouvoir, de leur confiance, Dieu les a simplement anéantis. Anéantis. Ils se sont enfoncés, le texte dit, verset 10, comme des blocs de plomb. Dieu, tout à l'heure, Gisèle nous partageait, hein, combien Dieu l'avait protégé. Mais moi, je me dis, et je le dis souvent dans mes messages, si nous revoyons le film de la journée, combien Dieu doit nous protéger, combien l'ennemi aimerait nous voir écrasés, dévastés, anéantis. Et Dieu est là, non, 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 sans mes enfants, je les aime. Regardez versets 11 et 12. Il résume les implications des actions puissantes de Dieu. Qui parmi tous les dieux, ô Éternel, es-tu semblable ? Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges ? Tu as étendu ta droite à la terre, les engloutis par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré, par ta puissance, tu te diriges vers la demeure de ta sainteté. Ce qui est extraordinaire, regardez bien, le peuple a souffert 400 ans. 400 ans, 430 ans exactement, hein, pour être fidèle au texte. Ils sont délivrés, ils sortent du pays, Dieu leur donne même l'occasion de voir plein de choses. Et là, ils arrivent dans un endroit où finalement, le seul moyen de traverser ne dépend plus d'eux. Et ils vont, en attendant d'aller au terrain promis, voyager encore 40 années. Mais là, Moïse confesse, admet, tu es un Dieu magnifique. Et tu nous conduis dans un lieu saint. Alors j'ai dit, je crois, 15 jours, il me semble, que nous sommes en exode, nous aussi. Nous sommes dans cette terre aride, dans cette terre où les conflits sont partout. Où l'ennemi fait fi pour nous faire tomber, pour nous annuler, pour nous faire défaillir. Mais nous sommes en route vers la terre promise. Et c'est quoi la terre promise ? C'est cet endroit que Dieu est en train de nous préparer. Cette place où il dit, je vous la prépare pour que vous soyez avec moi. Où il n'y aura plus ni le soleil, ni la lune, mais Jésus pour briller. Et Dieu nous, il fait comme le peuple, il dit, je te garde jusque-là. C'est beau, non, comme image ? Ça vous aide à comprendre que, voilà, Dieu ne nous a pas dit que ça serait simple sur cette terre. Il y a l'oppression, mais nous sommes déjà délivrés de l'obligation de pécher. Dieu nous a protégés, il est... Le Dieu magnifique en sainteté, opérant des prodiges, celui qui étend sa droite celui qui a la miséricorde, celui qui délivre, celui qui est puissant, celui qui dirige, nous dit le texte. Waouh ! On peut le dire, ça ? Est-ce que chacun d'entre nous, quels que soient les événements de la semaine, quels que soient les événements dans lesquels on est, on dit « Oh Seigneur, tu es magnifique en sainteté. » Wow. Pas facile à dire, hein, quand ça ne va pas. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? La grandeur et la beauté de Dieu sont reconnues par Moïse, mais aussi par les Israélites, après avoir réfléchi sur la victoire de Dieu. Ce qui m'impressionne, c'est que ce cantique révèle quels sont les mêmes que finalement je peux apprécier les choses que Dieu a déjà préparées d'avance. Ce que Dieu a dit dans l'Exode et ce que Dieu fait. Qui parmi tous les dieux, ô Éternel, est semblable à toi ? Par l'Exode, Dieu proclame qu'Israël saurait qu'il est l'Éternel. Nous avons la preuve. Nous avons la preuve, comme Israël, que Dieu est un Dieu puissant. Si nous sommes là ce matin, c'est que Dieu est un Dieu puissant. Il y a un peu plus de 30 ans d'aujourd'hui, le dimanche matin était prévu pour récupérer des beuveries de la veille. Éventuellement aller faire du sport l'après-midi pour cracher les cigarettes. 30 ans plus tard, Dieu nous rassemble pour louer Dieu. Il y a une différence, non ? C'est un Dieu puissant qui est venu nous chercher dans notre boue, dans notre difficulté, dans notre mauvais cheminement, pour nous amener jusqu'à lui. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il est le sujet de mes chants. Ce qui est intéressant, quand je préparais ce message, quand le mot « terre promise » est revenu dans ma tête, je me dis, tiens, je connaissais un chant quand j'étais jeune, c'était la terre promise. Alors j'ai essayé de me souvenir, mais ça parlait de quoi ? Et en fait, c'était un jeune chanteur à l'époque qui s'appelait Johnny Hallyday, qui chantait la terre promise. Alors j'ai réécouté les paroles, alors là, mes amis, je vous les donne même pas ce matin. Parce que la seule chose que je pouvais dire, que je peux répéter du chant, c'est la terre promise n'est pas là où je l'attends. Si vous voulez la discographie de Johnny Hallyday, allez-y dedans. Mais Johnny Hallyday, il exprimait quelque chose, c'est que la terre promise, c'est sur terre. Et c'est l'amour. Et dans la recherche de l'amour, les hommes et les femmes sont prêts à faire tout un tas de sacrifices. Mais c'est un amour instantané, un amour du moment. Mais c'est pas l'amour de Dieu. Et je crois que cette terre promise, cet endroit promis que Dieu nous a promis, pour y aller, mes amis, on a besoin de passer par cet exode, qui est notre vie sur terre. De ressentir la délivrance de Dieu, la protection de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la patience de Dieu, la puissance de Dieu. Non ? Moi, ça m'aide à savoir que ce Dieu qu'on a vu tellement interrogatif, prêt à lapider Moïse, parce qu'il ne lui donnait pas d'eau, ce peuple avait auparavant affirmer, mais tu es notre Dieu, tu es compatissant, tu es le Dieu des dieux. Mais regarde, tu n'es même pas capable de nous donner l'eau. Regarde, tu n'es même pas capable de nous nourrir. L'Éternel est ma force et ma forteresse. Deuxième partie, les versets 13 à 21, je me dépêche. La victoire que Dieu donnera. C'est une chose d'apercevoir, d'exprimer ce que Dieu a fait. Maintenant, dans la deuxième partie, on rentre dans ce que Dieu fera. Et regardez, à partir du verset 17, jusque-là, même à partir du verset 16, jusque-là, les verbes sont au présent ou au passé. Ce qui est intéressant, à partir du verset 16, regardez bien, la crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront. Verset 17, tu les amèneras, tu les établiras. Verset 18, l'Éternel règnera. On est passé du passé, du présent actif, jusqu'au futur. L'assurance, la sécurité. Je peux avancer dans cette vie en toute sécurité, parce que je sais où Dieu m'amène. Je sais que c'est vers lui. En suivant Moïse, je trouve Jésus. En suivant Moïse, en suivant les pas de Moïse, en suivant les pas de son peuple, alors je peux trouver Jésus. C'est pourquoi, dis-leur de ma part, je suis l'Éternel, je vous soustrairai au couvée auquel les Égyptiens vous soumettent, je vous libérerai de l'esclavage qu'ils vous imposent, je vous délivrerai par la force de mon bras et en exerçant de terribles jugements. Puis je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai pour qu'il vous appartienne, moi l'Éternel. Exode chapitre 6, versets 6 à 8. Dis-leur ! Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit des choses, n'est-ce pas ? Jésus a dit à ses disciples à plusieurs occasions : je vais être arrêté, je vais mourir, je ressusciterai, je viendrai vous chercher. Mais les disciples, ils entendaient jusqu'à, ils ne voulaient pas entendre jusqu'à arrêter, ça allait, mais mourir, non. Et donc ils n'entendaient plus la suite. Et il y a tellement de choses que Dieu nous dit dans sa parole, mais on n'est pas d'accord. Alors on ferme, on dit, oh non, ça j'entends pas, ça j'entends pas. Et puis hein, il nous arrive quelque chose, un problème, Dieu intervient, et d'un seul coup on se dit, ah mais, il me l'avait dit. Oui, tu me l'avais dit. Et c'est intéressant qu'on n'a pas changé, n'est-ce pas ? Comme le peuple d'Israël, Dieu avait dit ce qui arriverait. Et que ça serait par sa force, pas par la force de Moïse. Les dix plaies. Moïse est intervenu, mais qui est-ce qui était derrière ? Dieu. La délivrance, lève ton bâton, qui intervient ? Moïse ? Non, Dieu. Mara, qui ? Arrange l'eau. Dieu, pas Moïse. Ce qui est intéressant, voilà. L'amour de Dieu, la réalité de Dieu. Le verset 13, commence par un résumé de ce que Dieu allait accomplir. Regardez. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de la sainteté. Vers Canaan, vers le ciel. La défaite est consumée. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Vous rappelez quand ils sont arrivés à Jéricho ? La rumeur était arrivée jusqu'à Jéricho. On savait que Dieu était un Dieu puissant. Et le peuple le craignait. Est-ce que nous sommes si sûrs que ça ? Que Dieu nous conduit. Est-ce que nous sommes si sûrs que ça, que Dieu nous préserve, que Dieu est avec nous, que Dieu, dans sa main, il ne peut pas nous enlever. Si vous m'appartenez, celui qui m'appartient, nul ne vous ramira de ma main, ni les puissances, personne. Là, c'est beau d'avoir cette sécurité, non ? Au verset 17 et verset 18, regardez. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Un Dieu qui règne, c'est aussi la première mention ici, où Dieu règne. La place où il doit régner, mes amis, c'est dans notre cœur. Il doit y déloger ce moi, ce je, celui qui ne veut pas être délogé. Et la chose extraordinaire, c'est que Dieu ne le fait pas par puissance, ne le fait pas par méchanceté, ne le fait pas par violence, mais il le fait avec amour. Il nous montre combien son amour est grand. Regardez maintenant le verset 19, verset 20. Verset 19. Car les chevaux de Pharaon et ses chars, ses cavaliers sont entrés dans la mer. L'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer, mais les enfants d'Israël ont marché au sec au milieu de la mer. Et regardez le verset 20. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec le tambourin en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel. C'est ce qu'on a fait ce matin. Chantez à l'Éternel. Est-ce que nous sommes témoins de ce que Dieu a fait ? Est-ce que nous voyons ce que Dieu fait ? Et ma question, c'est est-ce que nous croyons de ce que Dieu fera ? Ce qu'il a fait, ce qu'il fait, ce qu'il fera. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et il est notre Dieu. Il n'est pas ce Dieu qui change, ce Dieu qui évolue, ce qui se met au goût du monde. Il est le Dieu éternel, trois fois saint. Et moi j'attends ce jour merveilleux, où tous ensemble, j'espère, au ciel, avec lui, nous pourrons vérifier que Dieu n'est pas un Dieu menteur, qu'il nous a préparé une place magnifique dans son ciel, avec lui. Un petit mot pour nous expliquer pourquoi j'ai pris du temps, pendant ce mois d'août, juillet et août, de nous parler de ce passage merveilleux, chapitre 15, 16, 17 de l'Exode. Parce que c'est le passage par excellence qui a toutes les racines de notre histoire. C'est par ce qui s'est passé là que Dieu a ancré l'idée que nous pouvons avoir cette sécurité. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 4, versets 32 à 40, les événements de l'Exode sont racontés à la génération suivante. Notre travail de Deutéronome 6, c'est de transmettre à la génération qui vient ce que Dieu a fait et ce qu'il fera. Lorsque Josué va arriver devant la mer Rouge, dans Josué 3, pardon, devant le Jourdain, pardon, la Bible va exprimer exactement ce qui s'est passé dans la mer Rouge. Dans l'histoire de l'Exode, le cantique de Moïse sont fréquemment cités aussi dans les psaumes, dépistés en lisant les psaumes. On est en train d'étudier un petit peu les psaumes. D'un bout à l'autre du livre d'Ésaïe, ce passage est dit, on a lu tout à l'heure quelques textes, dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, je termine là-dessus, la délivrance d'Israël est décrite de la même façon. Je l'ai lu tout à l'heure. Alors, conclusion. Conclusion sur ces trois ou quatre chapitres. Je les ai survolés. J'ai voulu vous donner juste l'intérieur pour vous donner cette sécurité, cette assurance que devant l'obstacle, devant les choses improbables, devant les choses où quelque part vous dites « qu'est-ce que moi je peux faire ?» Devant l'insécurité, devant le trouble, devant la défaillance, devant l'anéantissement, devant le découragement. Si nous pouvons affirmer de notre bouche que notre Dieu est un Dieu puissant, qu'il est le même, qu'il ne change pas, alors nous pouvons être sûrs que notre Dieu nous appartient. Si nous avons un trouble, si nous avons un doute, si nous ne savons pas où nous sommes dans le chemin, si peut-être la connexion a été perdue, comme avec le GPS, ça peut arriver. Quelqu'un dit, oh moi quand j'étais jeune c'était bien, mais maintenant avec la vie tu sais, Dieu ne change pas. Dieu veut toujours que Dieu soit avec nous. Je vous invite à lire dans Romains au chapitre 5. Romains chapitre 5, Nouveau Testament. On va lire les cinq premiers versets ensemble. C'est la synthèse de tout ce qui a été dit pendant deux mois. Romains 5, tout le monde y est ? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions même dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Étant donc justifiés, nous avons la paix, nous avons l'accès, nous avons l'espérance, et même au travers des afflictions, nous avons la persévérance. Et dans la persévérance, nous avons la victoire. Voilà l'exemple du peuple d'Israël. Voilà l'exemple du peuple de Vigneux. Un Dieu qui nous donne d'être justifiés par la foi. Est-ce que c'est votre cas ? Justifiés non pas par vos œuvres, par vos bonnes œuvres, mais justifiés par la foi en Dieu, l'assurance qu'il est là, qu'il est celui qui nous délivre, qui nous conduit. Je vous invite à prier.